Turin avait alors presque 8 ans, et on était au mois de Guairon, selon le calendrier de Edain, en cette année que nul n'oubliera jamais. Déjà circulaient des rumeurs parmi les anciens qui parlaient d'un formidable ralliement d'hommes et rassemblement d'armes, et lui, Turin, n'en savait mot encore. Mais Aurine, connaissant le courage et la langue prudente de Morwen, s'entretenait souvent avec elle des projets des rois elfes et de ce qu'il pourrait advenir en bien ou en mal. Son cœur était plein d'espoir et il ne craignait pas l'issue de la bataille, car il ne concevait pas qu'une force quelconque issue de la terre du milieu puisse renverser la puissance et la splendeur des Eldar. « Ils ont contemplé la lumière de l'Ouest, » dit-il, « et à la fin, les ténèbres devront quitter leur visage. » Morwen ne le contredisait pas, car en compagnie de Aurine, l'espérance se faisait toujours plus vraisemblable. Mais dans sa propre lignée, on avait aussi connaissance des traditions des peuples elfes, et en son fort intérieur, elle se disait « Et pourtant n'ont-ils pas fui la lumière? Et ne sont-ils pas à présent tenus à l'écart de la lumière? Et il se pourrait que les seigneurs de l'Ouest les aient chassés de leurs pensées? Et si cela est, comment les aînés pourront-ils triompher de l'un des puissants ?» Mais nulle ombre d'un doute ne semblait effleurer Aurine Thalion. Et cependant, un matin de printemps, en cette année fatidique, il s'éveilla comme d'un sommeil agité, et ce jour-là, un nuage vint ternir sa joie. Et le soir même, il dit soudain, « Lorsque je serai convoqué, Morwen et Ledwen, je laisserai en ta garde l'héritier de la maison de Hador. La vie des hommes est brève et sujette à bien d'amères vicissitudes, même en temps de paix. »
Il en fut toujours ainsi, répondit Morwen. Mais que recouvrent tes paroles?
La prudence, très certainement, dit Aurine.
Et cependant, il paraissait troublé.
Mais quiconque regarde vers l'avenir doit voir ceci, que les choses ne vont pas demeurer en leur état actuel. Un terrible ébranlement se prépare. Et un des côtés tombera très bas, bien plus bas qu'il ne se trouve aujourd'hui. Si la chute doit être celle des rois elfes, alors un sort funeste se prépare pour les Edain, et nos demeures, à nous autres, sont à portée de l'ennemi. Mais même si les choses tournent au pire, je ne te dis pas ne crains rien, car tu redoutes ce qui est véritablement redoutable, et cela seulement, et la peur ne te trouble pas. Mais je te dis, n'attends pas. Je reviendrai comme je le pourrai, mais n'attends point. Va-t'en au sud aussi vite que tu le peux, et je te suivrai et je te trouverai, même s'il me faut chercher à travers tout le Beleriand.
Le Beleriand est vaste et sans nul refuge pour les exilés, dit Morwen. Où m'enfuirai-je donc, accompagné de quelques-uns ou de toute une cohorte?
Aurine se prit alors à réfléchir quelques instants en silence. Il y a la parenté de ma mère à Brethil, dit-il. À vol d'oiseau, ce n'est guère qu'à une 30aine de lieues.
Si ces temps de malheur adviennent effectivement, de quel secours seraient les hommes?
Dit Morwen.
La maison de Béor est tombée. Si l'illustre maison de Hador tombe, dans quel terrier se meutera le petit peuple de Haleth?
Ils sont peu nombreux et peu instruits, mais ne doute pas de leur vaillance, dit Aurine. Et en qui d'autre mettre notre espoir?
Tu ne parles pas de Gondolin, dit Morwen.
Non, car ce nom n'a jamais passé mes lèvres, dit Aurine. Et cependant, ce que tu as entendu dire est vrai. J'y suis allé. Mais je te dis en vérité ce qu'à nul autre je n'ai dit, et point ne dirai. J'ignore où elle se trouve.
Mais tu le devines, et à ce que je pense, tu devines presque juste, dit Morwen.
Cela se peut, dit Aurine. Mais à moins que Turgon lui-même ne me délivre de mon serment, je ne puis dire ce qu'effectivement je devine, même à toi, de sorte que ta quête serait vaine. Et même si à ma honte je parlais, tu ne parviendrais au mieux qu'à une porte close. Car sauf si Turgon sort lui-même guerroyer, et on n'a rien entendu dire de pareil et on ne le prévoit pas, personne ne peut y entrer.
Alors si tes parents sont de si piètre secours, et si tes amis te renient, dit Morwen, il me faut m'en remettre à moi-même. Et c'est au Doriath que je songe maintenant. La ceinture de Méliane sera bien la dernière défense à capituler, me semble-t-il, et la maison de Béor n'encourra pas le mépris au Doriath. Car ne suis-je pas désormais parente du roi? Beren, fils de Barahir, N'était-il pas petit-fils de Brégor, comme l'était mon père ?»«
Mon cœur ne m'entraîne pas vers Thingol, » dit Hurin. « Il ne portera nulle aide au roi Fingon, et je ne sais quelle ombre recouvre mon esprit lorsque l'on prononce le nom du Doriath. »
« Mon cœur à moi s'assombrit de même au nom de Brethil, » dit Morwen. Là-dessus, Hurin se prit soudain à rire et dit
« Nous voilà assis, à discuter de choses bien au-delà de notre pouvoir et d'ombres sorties de nos rêves. Les choses n'iront pas si mal, mais si malheur arrive, je confie tout à ton courage et à ta prudence. Fais donc ce que ton cœur t'enjoint de faire, mais fais-le vite. Et si nous triomphons, alors les rois elfes ont résolu de restituer tous les fiefs de la maison de Béor à ses héritiers, et notre fils héritera de grands biens. »
Cette nuit-là, Turin s'éveilla à demi, et il lui sembla que son père et sa mère se tenaient à son chevet, et qu'ils le contemplaient à la lueur des bougies qu'il tenait à la main. Mais il ne pouvait distinguer leurs traits. Le matin de l'anniversaire de Turin, Hurin donna à son fils un cadeau. Un couteau de la main des elfes, et le manche et le fourreau étaient tout d'argent et de noir. Et il dit «
Héritier de la maison de Hador, voici un cadeau en l'honneur de ce jour. Mais prends garde, c'est une lame acérée, et l'acier sert seulement celui qui sait le manier. Il te coupera la main aussi volontiers qu'autre chose. »
Et déposant Turin debout sur une table, il embrassa son fils, disant
« Et voilà que tu me domines déjà, fils de Morwen. Bientôt tu seras aussi haut que cela sur tes propres jambes, et ce jour-là, nombreux seront ceux qui redouteront ta lame. »
Sur ce, Turin s'échappa de la chambre et s'en alla tout seul, et il avait une douce chaleur au cœur, comme la chaleur du soleil sur une terre gelée, avivant l'éclosion de toute chose. Et il se répétait à lui-même les paroles de son père. « Héritier de la maison de Hador. » Mais d'autres mots lui venaient aussi à l'esprit. « Donne à pleine main, mais donne ce qui est à toi. » Et il alla trouver Sador et s'écria « Labadal, c'est mon anniversaire, l'anniversaire de l'héritier de la maison de Hador, et je t'ai apporté un cadeau pour marquer ce jour. Voici un couteau, celui-là même dont tu as justement le besoin. Il coupera tout ce que tu peux souhaiter, fin comme un cheveu. » Mais Sador fut confus, car il savait bien que Turin avait lui-même reçu le couteau ce jour-là. Or, parmi les hommes, on tenait pour indigne de refuser un don librement prodigué, de quelque main que ce soit. Alors il s'adressa à lui gravement.
« Tu es issu d'une généreuse famille, Turin, fils de Hurin. Je n'ai rien fait pour me rendre digne de ton cadeau, et je ne puis espérer guère mieux faire dans les jours qui me sont laissés. Mais ce que je peux faire, je le ferai. »
Et lorsque Sador tira le couteau du fourreau, il dit
« Voici un cadeau véritable, une lame d'acier trempée par les elfes forgerons. Depuis bien longtemps, j'en avais perdu le toucher. »
Hurin remarqua bientôt que Turin ne portait pas le couteau, et il lui demanda si sa mise en garde le lui avait rendu redoutable. Lors Turin répondit
« Non, mais j'ai donné le couteau à Sador, l'artisan du bois. »
« Serait-ce que tu dédaignes le cadeau de ton père ?» dit Morwen. Et de nouveau Turin répondit
« Non, mais j'aime Sador, et j'ai pitié pour lui. »
Et Hurin dit
« Les trois dons étaient tiens pour en user à ta guise, Turin. L'amour, la pitié et le couteau, le plus pauvre des trois. »
« Et pourtant je doute que Sador le mérite, »
dit Morwen.
« Il s'est mutilé lui-même par son propre manque d'adresse, et il est lent à la tâche, car il passe beaucoup de son temps à des babioles qui ne lui ont pas été commandées. »
« Accorde-lui cependant la pitié, » dit Hurin. « Une main honnête et un cœur loyal peuvent trancher le travers, et le mal accompli peut bien être plus dur à supporter que l'œuvre de l'ennemi. »
« Toutefois, il te faudra maintenant attendre pour avoir une autre lame, » dit Morwen. « Et ainsi le cadeau sera un cadeau véritable à tes propres dépens. »
Turin remarqua néanmoins que l'on traitait désormais Sador avec plus de mansuétude, et qu'on lui attribua la fabrication d'un grand siège destiné au seigneur lorsqu'il se trouvait en sa salle. Vint un clair matin du mois de Lothron, où Turin fut réveillé par des soudaines fanfares, et courant aux portes, il vit dans la cour un grand attroupement d'hommes, fantassins et cavaliers, et tous armés de pied en cap, comme partant en guerre. Et parmi eux se tenait Ourine, et il parlait aux hommes et donnait des ordres. Et Turin apprit qu'il s'en allait ce jour-là pour Barad Eiffel. Et c'était la garde personnelle de Ourin et les hommes de sa maison. Mais on avait convoqué aussi tous les hommes de ses terres. Certains étaient déjà partis avec War, le frère de Ourin. Et nombre d'autres devaient rejoindre le seigneur du Dorlomine en route et suivre sa bannière pour se rendre au grand ralliement du roi. Et Morwen fit ses adieux à Ourin sans larmes versées. Et elle dit, « Je veillerai sur ce que tu laisses à mes soins, tant ce qui est que ce qui sera. » Et Ourin répondit, « Adieu, dame du Dorlomine. Nous chevauchons à présent avec plus d'espoir que nous n'en avons jamais eu auparavant. Songeons que la prochaine fête du solstice d'hiver sera la plus gaie qui fut jamais, et qu'elle sera suivie d'un printemps sans crainte aucune. » Puis il souleva Turin sur ses épaules et cria à ses hommes, « Que l'héritier de la maison de Hador voie l'éclat de vos épées !» Et 50 épées jaillies du fourreau flamboyèrent au soleil, et la cour résonna du cri de guerre des Edain du Nord. « Laco Kalad, Drego Morn !» Que flambe la lumière, que fuit la nuit. Enfin, Ourin sauta en selle, et on déploya son oriflamme mordoré, et les trompettes retentirent encore une fois dans l'air du matin. Et ainsi, Ourin Thalion s'en fut, chevauchant vers les Nirnaeth Arnoidiad. Mais Morwen et Turin se tinrent immobiles à la porte jusqu'à percevoir au loin le faible appel d'un unique corps porté par le vent. Ourin avait passé la crête de la colline, et de l'autre versant, il ne pouvait plus apercevoir sa demeure.